Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 20 mars 2014. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Anne, au sommaire de cette édition.
Les trois leaders religieux centrafricains multiplient les rencontres à Washington pour sensibiliser les Américains à la crise dans leur pays.
L'ex-chef de la junte malienne Amadou Aya Sanogo fait la grève de la faim après son transfert à Sélingué à 120 km de Bamako.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma priait de rembourser le trésor public pour des transformations jugées excessives à sa résidence privée.
La communauté internationale s'impatiente devant le manque de progrès dans les négociations entre parties en conflit au Soudan du Sud.
L'Ukraine envisage de retirer son personnel militaire de la Crimée après la prise du QG de sa marine par des éléments pro-Moscou.
L'Australie parle de découverte de débris qui pourraient appartenir à l'avion de ligne malaisien porté disparu depuis le 8 mars. Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Muntou et les sports. Pour l'instant, le journal. Nous vous en parlons depuis le début de la semaine. Les trois leaders religieux centrafricains poursuivent leur visite à Washington. Dieudonné Zapalenga, Nicolas Gerekoyam Bangou et Obar Kawin Layama multiplient les rencontres pour sensibiliser les Américains à la crise centrafricaine. Hier, les trois hommes sont venus dans les studios de la Voix de l'Amérique. Ils seront ce soir les invités de Washington Forum. Écoutez Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui.
En tenant compte de la situation qui prévaut actuellement dans mon pays, en même temps, je suis un homme de foi. Je suis appelé à voir plus loin. Porté par cette foi, j'ose croire et je formule cette prière, le souhait qu'un jour, nous allons nous sortir de ce gouffre-là. En même temps, je voudrais le dire, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Le jour nouveau que les Centrafricains attendent, c'est le jour où la fraternité sera d'actualité. Musulmans, chrétiens, ensemble, on va se tenir dans la main pour construire le beau pays qui s'appelle la République centrafricaine. Musulmans et chrétiens, nous formons une unité. Tôt ou tard, ce message retentira dans le cœur des Centrafricains, dans le cœur des hommes de bonne volonté. La raison prendra le dessus, la foi nous portera vers un ailleurs meilleur.
Monseigneur Dieudonné Zapalenga, au micro de Nicolas Pinault. Une interview à retrouver sur notre site web lavoixdelamérique.com.
En RCA même, c'est le porte-parole des anti-Balaka qui, hier, a mis en garde contre les rumeurs d'une possible attaque de miliciens dans le quartier musulman du PK-15. Un calme précaire régnait à Bangui, mais la panique était encore palpable après les tirs à l'arme automatique et les explosions de grenades qui, mardi, avaient secoué plusieurs quartiers du sud de la capitale. Nous y revenons avec Nicolas Pinault.
Oui, ce mercredi a été plutôt calme dans le 3e arrondissement de Bangui. La circulation a repris et certaines familles ont regagné leur habitation. Une manifestation des jeunes du quartier Béarex contre ce qu'ils appellent la passivité des soldats burundais de la MISCA s'est soldée par un blessé par balle parmi les manifestants. Depuis 48 heures, des rumeurs d'une éventuelle attaque des anti-Balaka sur le quartier musulman de PK5 courent dans la ville. Pour la coordination des anti-Balaka, ces rumeurs sont de nature à perturber la quiétude de la population. Écoutons Émotion Brice Namsio, il est le porte-parole adjoint de cette milice.
Ce n'est pas toute une réalité parce que justement, je viens au nom de notre coordonnateur, Edouard Patrice Ngassona, pour tenir informée la population centrafricaine, soit bangissoise tout entière, qu'il n'y aura pas d'attaque au niveau Kémétien. Parce que justement, le peuple a trop souffert, on a besoin de la paix. J'en profite pour demander à nos frères musulmans qui détiennent devant eux des armes de chercher à se désarmer eux-mêmes. Parce que justement, nous n'avons pas besoin de ce conflit. Ces auteurs de ces rumeurs, nous les cherchons pour le moment afin de leur mettre la main dessus. Nous allons passer devant la justice de notre pays.
C'est dans ce contexte que Nevi Pillay, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, poursuit sa tournée de 72 heures en Centrafrique. Elle s'est entretenue ce mercredi avec les leaders de la société civile à Bangui.
Nicolas Pinault qui nous résumait les dépêches reçues hier de Bangui. Au Mali, Amadou Aya Sanogo a été transféré cette semaine de l'école de la gendarmerie de Bamako vers Selenge, une ville située à 120 km de Bamako. Face aux conditions de détention, le général 4 étoiles a entamé une grève de la faim dès son arrivée à Selenge, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Le général Amadou Aya Sanogo, en détention depuis le 25 octobre suite à son interpellation dans l'affaire des bureaux rouges par le juge d'instruction Yaya Karambé, a été transféré à 120 km de Bamako, plus précisément dans la ville de Selenge. Ce transfert demandé par le juge d'instruction n'avait pas été possible la semaine passée. C'est ce mardi 18 mars 2014 qu'ils ont transféré l'ancien homme fort de Kati à Selenge. Dès son arrivée, il n'a pas apprécié les conditions de détention du nouveau lieu, car il y avait un manque d'électricité dans sa chambre, manque de certaines commodités, des toilettes qui sont très loin de la chambre. Après constat, Amadou Aya Sanogo, selon l'un de ses avocats, a refusé de manger avant de décider d'observer la grève de la faim. D'après son avocat, il est inadmissible que leurs clients restent dans ces conditions inhumaines. Ce matin, les autorités militaires en charge du dossier de transfert des militaires est allé sur place à Selenge afin de voir ce qu'il y a lieu de faire. Sur place, ils ont été butés à un refus catégorique du général Amadou Aya Sanogo qui veut continuer avec sa grève de la faim. Et cela sans aucune assistance médicale. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
En Afrique du Sud, la responsable de la lutte anticorruption a accusé le président Jacob Zuma d'avoir violé le code éthique qui l'engage à ne pas gaspiller l'argent public pour avoir accepté des aménagements estimés à 23 millions de dollars dans sa résidence privée de Kandla, dans la province du KwaZulu-Natal. La médiatrice Tuli Madonsela a, dans son rapport, exhorté M. Zuma à rembourser une partie de cet argent.
Parmi les aménagements effectués, selon le gouvernement, pour des raisons de sécurité, on relève une piscine, un enclos pour bétail et un amphithéâtre. Madame Madonsela souligne que le président Zuma n'a jamais soulevé d'objection à ce sujet. Notons que son rapport a été publié 6 semaines avant la tenue des élections générales en Afrique du Sud. De récents sondages montrent une baisse de popularité pour l'ANC, le parti au pouvoir, en raison essentiellement de la corruption, du taux élevé de chômage et d'une carence de services de base. L'ANC devrait répondre au rapport de Tuli Madonsela pendant la journée.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine annonce avoir mis au point des plans d'évacuation de tout son personnel militaire numériquement inférieur de la péninsule de Crimée. Cette nouvelle signifie en fait que Kiev cède le contrôle militaire du territoire aux miliciens pro-Moscou lourdement armés qui ont saisi une base clé en Crimée.
En annonçant ce retrait, le chef du Conseil ukrainien de défense et de la sécurité nationale, Andriy Paroubi, a déclaré qu'il demandera le soutien des Nations unies pour transformer en zone démilitarisée la péninsule. Il a aussi dit, sans autre précision, que l'Ukraine envisage de tenir des manœuvres militaires avec ses alliés. Quelques heures auparavant, les miliciens pro-russes s'étaient emparés du QG de la marine ukrainienne à Sébastopol, 24 heures après que le président Vladimir Poutine a signé un traité avec les autorités locales, faisant de la Crimée partie intégrante de la Russie. Une seconde base ukrainienne aurait également été saisie par les forces russes, selon des dépêches hier soir.
Des raids aériens israéliens sur les hauteurs du Golan ont coûté la vie à un soldat syrien et fait 7 blessés hier. Il s'agissait là de la plus sérieuse escalade entre Israël et la Syrie depuis le début de la guerre civile syrienne il y a 3 ans. Damas a confirmé le bilan des victimes de ces raids lancés en réaction à une attaque contre les forces israéliennes à travers la ligne de cessez-le-feu sur le Golan. De part et d'autre, on a lancé de sévères avertissements après ces incidents.
L'Australie annonce avoir découvert des débris possibles de l'avion de ligne malaisien dans le sud de l'océan Indien. Le Premier ministre Tony Abbott a dit au Parlement aujourd'hui que 2 objets ont été vus dans des images satellites, ajoutant qu'un avion de surveillance Orion et 3 autres appareils se dirigent vers l'endroit indiqué.
M. Abbott a cependant mis en garde contre toute conclusion hâtive concernant la nature de ces objets, disant qu'il sera extrêmement difficile de les localiser. Les officiels australiens doivent tenir une conférence de presse aujourd'hui à Canberra pour discuter de ces découvertes. L'Australie aide à coordonner les opérations dans la partie sud de la zone de recherche de l'appareil disparu le 8 mars avec 239 personnes à son bord lors d'un vol Kuala Lumpur-Pékin.
Enfin, la Banque centrale américaine continue de réduire son soutien direct à l'économie américaine, la plus importante du monde. Son comité de politique monétaire a annoncé hier que la Fed diminuera encore le mois prochain ses achats mensuels de bons du Trésor qui visent à maintenir bas les taux d'intérêt et à booster le marché de l'emploi. La nouvelle présidente de la Fed, Janet Yellen, trouve que le taux de chômage de février est encore trop élevé, à 6,7%, mais que les économistes de la banque s'attendent à ce qu'il continue de baisser en 2014, peut-être jusqu'à 6,1%, et à retrouver ses niveaux normaux d'ici à 2016.
Voilà pour le journal. Merci Anne Albertson. Ici Washington, la voix de l'Amérique. Retour ce matin sur les vives tensions politiques au Burundi. Des militants d'un parti d'opposition récemment suspendu risquent la prison à perpétuité à la suite d'une manifestation politique qui a dégénéré au début du mois de mars. Ce dernier incident ne fait qu'illustrer la situation de plus en plus crispée dans le pays à moins d'un an de l'élection présidentielle. Jacques Aristide.
C'était le 8 mars dernier à Bujumbura, la capitale. Des militants du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD, descendent dans la rue pour protester contre ce qu'ils appellent les restrictions du gouvernement, liberté politique. De violents affrontements éclatent avec la police anti-émeute qui disperse les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Plus d'une dizaine de membres de l'opposition sont blessés alors que deux policiers sont brièvement pris en otage au siège du MSD. Résultat, le parti est suspendu pour 4 mois et 46 de ses membres sont jugés pour participation à un mouvement insurrectionnel armé. Le parquet burundais a requis la peine maximale, la prison à vie. 22 autres font face à des accusations moins graves. Le président du Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi, Vital Hachimirimana, est catégorique. La répression du 8 mars était politiquement guidée. La police a montré qu'elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre parce qu'en quelque sorte, elle se laisse dicter sa conduite par des gens du parti au pouvoir. Mais démenti du côté du gouvernement, le conseiller présidentiel Gervais Abeyeho nie toute répression délibérée de l'opposition. Et d'ajouter que les manifestants avaient violé un arrêté du ministre de l'Intérieur qui avait interdit les rassemblements politiques ce même jour parce qu'il coïncidait avec les célébrations marquant la Journée internationale de la femme. Les choses dans ce pays sont telles que si vous ne respectez pas la loi, si vous ne respectez pas ce qu'ordonne le ministre de l'Intérieur ou le gouvernement, eh bien peu importe que vous soyez de l'opposition ou du parti au pouvoir, la loi s'applique à tout le monde. La communauté internationale n'est pas restée insensible aux événements au Burundi. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé les deux camps à faire preuve de retenue tout en déplorant les restrictions croissantes à la liberté d'expression et de rassemblement dans le pays. Quant au département d'État américain, il a condamné le recours par le gouvernement aux méthodes musclées pour disperser le rassemblement du 8 mars. Mais pour le conseiller présidentiel Abayeho, la situation politique n'est pas aussi mauvaise qu'on veuille faire croire. Le pouvoir, dit-il, dialogue avec tous les partis politiques sur des sujets qui les préoccupent. Et la communauté internationale, soutient-il, ne doit pas prêter foi aux informations fournies par l'opposition. Les opposants, eux, ne sont pas rassurés. Ils croient que le régime en place veut délibérément asphyxier l'opposition afin de placer le parti au pouvoir dans une opposition plus forte en vue des élections présidentielles et législatives l'année prochaine. Pour rappel, l'opposition avait boycotté les scrutins de 2010 en alléguant la fraude électorale, ouvrant la voie à une victoire facile du président Pierre Nkurunziza.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays.
Et maintenant, place à la rubrique des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
De Goma, Charlie Kasereka pour 100 citoyens journalistes de la Voix de l'Amérique. À Goma, le projet de construction et réhabilitation de 30 écoles vient d'être lancé ce 19 mars par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, M. Maker Mwangufamba. Et c'est à l'Institut Kimbanguiste d'Issadi, ici à Goma, que le projet a été lancé avec la pose de la première pierre. 1 600 dollars américains, c'est le montant de financement qu'a donné le gouvernement du Japon et l'UNESCO en collaboration avec le gouvernement gouvernement congolais vont réaliser ces vastes projets dans l'est de la RDC, dans 5 sous-divisions dont Goma, Masisi et dans les zones post-conflit telles que Rutshuru et Nyiragongo, sans oublier Masisi. Sur place, les enseignants et les écoliers qui passaient leur journée de cours dans des salles à moitié achevées ont manifesté leur joie et promettent de faire ces projets siens pour que les générations futures puissent aussi profiter de cette œuvre qui vient d'être lancée ici à Goma.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
La communauté internationale dit commencer à perdre patience face au manque de progrès dans les négociations de paix sud-soudanaises en dehors d'un cessez-le-feu souvent violé. Cela fait près de 3 mois que les belligérants sont en pourparlers à Addis Abeba. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Un avertissement a été lancé hier aux leaders des deux camps par l'émissaire spécial américain pour le Soudan du Sud. Si le gouvernement ou tout autre acteur tente de saper le processus de paix ou de rejeter les efforts des chefs d'État de l'IGAD, il en subira les conséquences. Le peuple du Soudan du Sud attend un renouveau. Il veut faire entendre sa voix dans la mise en place d'une paix durable, a fait savoir Donald Booth, qui s'exprimait également au nom de la Norvège, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Les négociations de paix sous médiation de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, devait se poursuivre aujourd'hui. Mais le gouvernement sud-soudanais a fait savoir cette semaine qu'il n'enverrait pas de délégation en cas de participation de ceux des leaders pro-rebelles qu'il avait détenus pendant plusieurs semaines à Djouba. De leur côté, les rebelles sud-soudanais ont émis des réserves au sujet de la force de stabilisation que les pays de l'IGAD s'apprêtent à déployer le mois prochain. Des sanctions pourraient être adoptées contre quiconque entraverait les progrès dans le processus de paix, a mis en garde de son côté Alexander Rondos, émissaire de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique.
The European Union, that is, reiterates that it stands ready.
L'Union européenne réitère qu'elle est prête à prendre des mesures restrictives ciblées contre les individus bloquant le processus politique en soutien à l'Union africaine et à l'IGAD et en étroite coordination avec les partenaires de l'IGAD, a souligné l'émissaire européen. Les affrontements qui ont éclaté en décembre entre les partisans du président sud-soudanais Salva Kiir et ceux de son ex-vice-président Riek Machar ont fait des milliers de morts à travers le pays. Et en dépit du cessez-le-feu signé en janvier, les hostilités se poursuivent, faisant des centaines de milliers de déplacés, une situation qui pourrait aboutir à une famine, à moins que les paysans sud-soudanais se sentent suffisamment en sécurité pour retourner chez eux et entamer les travaux champêtres.
Dégel de la crise sociopolitique qui secoue l'école béninoise. L'espoir est désormais permis, nous dit notre correspondant à Cotonou, puisque l'un des bras durs de la grève illimitée qui ferme les portes de l'école béninoise 3 jours sur 5 toutes les semaines, le Front des syndicats des 3 ordres de l'enseignement, vient de lever sa motion. Une décision dénoncée par certains membres du Front et les centrales et confédérations syndicales. Les précisions de Peggy Ludovic Dagba à Cotonou.
Le Front des 3 ordres de l'enseignement vient de mettre un terme à son mouvement de grève entamé depuis le 28 janvier 2014. Ceci en rapport à celui des centrales et confédérations syndicales pour réclamer principalement le respect des libertés publiques. Malheureusement, le tribut payé par la nation béninoise par le biais de cette grève devenait de plus en plus lourd, selon le porte-parole du Front, Lucien Glelet Langenfin.
Le Front d'action des syndicats des 3 ordres d'enseignement décide, dans l'intérêt supérieur du peuple béninois et après délibération de la conférence des secrétaires généraux à la majorité absolue des syndicats présents, de suspendre la motion de grève actuellement en cours pour compter du jeudi 20 mars 2014, de prendre le peuple béninois à témoin pour accorder un moratoire de 1 mois pour compter du vendredi 21 mars 2014 au gouvernement pour exiger la rétrocession intégrale des défalcations opérées sur les salaires de 2012 en avril 2014. Le règlement définitif de la question de la sédentarisation des enseignants vacataires. La définition par le gouvernement d'un échéancier précis d'application de la mesure de revalorisation de 1,25 de l'indice de traitement au profit des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Le règlement des problèmes sectoriels par les ministres des enseignements maternels, primaires et secondaires.
Le cœur gros, les parents d'élèves ne savaient plus à quel saint se vouer. Cette décision du front est alors venue apaiser leur cœur. Écoutons ici quelques-uns parmi eux rencontrés à Cotonou.
La levée de la motion de grève, c'est un ouf de soulagement pour tous les parents et tous les élèves. Ceux qui désespéraient déjà, surtout les élèves qui sont en classe d'examen, ils ont maintenant l'assurance qu'on pourra organiser les examens et qu'on leur offre une possibilité de réussite.
Nous étions dans une situation de psychose. Nous ne savions pas à quelle sauce seraient mangés nos enfants. Maintenant que le front lève cette motion de grève, nous nous estimons heureux. Nous souhaitons que les autres membres du front qui apparemment se soulèvent et ne sont pas d'accord avec la signature, n'est-ce pas, de la secrétaire générale, que ces gens veuillent bien mettre de l'eau dans leur vin et regarder en face nos enfants pour se dire, ben, une année blanche, toutes les conséquences sont assez nombreuses.
Je suis au regret de constater que dans mon pays, on veut toujours résoudre les problèmes de façon parcellaire et que les véritables problèmes de fond sont là, mais nous choisissons de façon sectaire de faire du saupoudrage, croyant que nous permettons à notre pays d'avancer, mais c'est dommage, nous sommes en train d'ensevelir davantage notre nation.
Mais cette joie des parents d'élèves risque d'être de courte durée, puisque les centrales et confédérations syndicales, à l'issue de leur tournée dans les départements, n'entendent pas démordre, puisque, selon les secrétaires généraux, leur base réclame la poursuite de mouvements. Une marche est d'ailleurs projetée pour vendredi prochain sur la préfecture de Cotonou pour aller signifier leur décision au maître des lieux. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, changement de programme. Ce jeudi, nous vous proposerons un Washington Forum spécial Centrafrique et nous reviendrons très bientôt sur les médicaments génériques. Demain, rendez-vous avec Nicolas Pineau et ses invités, trois leaders religieux centrafricains de passage à Washington.
L'espoir maintenant avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Idrissa.
En football, suite et fin hier des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions et les deux derniers qualifiés sont connus. Il s'agit de Manchester United qui a battu 3-0 Olympiakos et Dortmund qui s'est qualifié même s'il a été battu en match retour par le Zénith de Saint-Pétersbourg.
Oui, ces deux clubs rejoignent en quart de finale le Real Madrid, Chelsea, Atlético Madrid, le Bayern Munich, Paris Saint-Germain et Barcelone. Le tirage au sort des quarts de finale est prévu ce vendredi.
En cyclisme, Henao interdit de course.
Après examen de tests antidopage pratiqués durant l'hiver, son équipe Sky a annoncé hier mercredi qu'elle interdisait de course le Colombien Sergio Henao, âgé de 26 ans, pendant une période minimale de 8 semaines.
Et en tennis?
Oui, le Français Julien Benedetto a eu du mal contre le Britannique Kyle Edmund pour son entrée en lice pour le Master 1000 de Miami ce mercredi. Mené 1-7 et 1 break, le Bressan est toutefois parvenu à inverser la tendance 6-7, 6-3, 6-2 en 1h55. Il retrouvera Ernest Gulbis, tête de série numéro 21, au deuxième tour.
Enfin, à NBA, le championnat de basketball nord-américain, Chicago 102, Philadelphie 94, Miami 96, Boston 101, Charlotte 99, Brooklyn Nets 104, Utah 86, Memphis 96, Toronto 107, New Orleans 100, Indiana 86, New York Knicks 92, Minnesota 123, Dallas 122, Détroit 109, Denver 118, Orlando 93, Phoenix 109. Merci à Bagassi Koura. Place maintenant à Roger Moutou et sa musique. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa, bonjour les amis.
Alors, nous écoutons quel artiste ce matin?
Ce matin, Idrissa, que de la bonne musique rock qui nous rappellera un peu des années 80. Écoutons Pat D'Annunzio dans Blood and Roses.
Like yesterday, saw you standing in the rain. Then I heard you say,
il était dans quel groupe, lui, Roger?
Mais Pat était membre du Smithereens, qui était un groupe américain du power pop des années 1980, populaire dans les milieux universitaires, oui, mais il ne réussit jamais vraiment à gagner un public plus large. Et lorsque la mode musicale changea avec l'arrivée du grunge, qui est un genre musical dérivé du rock, apparu au milieu des années 1980, la chute alors des ventes d'albums et le manque d'intérêt général signala la fin du groupe.
Roger, décris-nous un peu leur style de rock.
Les Smithereens jouaient un rock mélodique inspiré de groupes anglais du début des années 1960. Les guitares sont omniprésentes et les chansons sont facilement mémorisables grâce au talent de Pat D'Annunzio, le chanteur et aussi principal compositeur.
Merci Roger.
Bonne journée à toi Idrissa ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Roger Muntu que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Anne Albertson nous rejoint en studio pour le rappel des titres.
Les trois leaders religieux centrafricains multiplient les rencontres ici à Washington pour sensibiliser les Américains à la crise dans leur pays. L'ex-chef de la junte malienne, Amadou Aya Sanogo, fait la grève de la faim après son transfèrement à Sélingué, à 120 km de Bamako. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma priait de rembourser le trésor public pour des transformations jugées excessives à sa résidence privée. La communauté internationale s'impatiente devant le manque de progrès dans les négociations entre parties en conflit au Soudan du Sud. L'Ukraine envisage de retirer son personnel militaire de la Crimée après la prise du QG de sa marine par des éléments pro-Moscou. Enfin, l'Australie parle de découverte de débris qui pourraient appartenir à l'avion de ligne malaisien porté disparu depuis le 8 mars dernier.
Merci Anne pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.